et bienvenue dans cette émission, la 17e vague de la maladie à virus d'Ebola qui sévit en RDC depuis bientôt 20 jours, multiplie des signaux positifs depuis 2 jours. Un premier guéri de cette pathologie a été signalé le week-end et depuis dimanche, 4 malades soignés au centre médical évangélique de Bounia ont aussi été déclarés guéris par les experts de ce centre. Entre-temps, les États-Unis réitèrent leur appui à la RDC pour combattre cette épidémie. Ils parlent des 162 millions de dollars déjà mobilisés pour appuyer les efforts sur le terrain, mais aussi d'une riposte rapide et globale menée en combinaison avec les centres américains de contrôle des maladies. De leur côté, le gouvernement de la RDC et l'Organisation mondiale de la santé OMS réaffirment aussi ensemble leur engagement à protéger la santé des populations. Dans un communiqué conjoint du 31 mai, les deux parties disent avoir intensifié la surveillance, les analyses des laboratoires et la prise en charge des patients, avec pour objectif d'interrompre le plus tôt possible la transmission de la maladie. Que pensez-vous de cette dernière évolution de la maladie? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous recevons dans cette émission en ligne Dr Dieudonné Mwamba, il est directeur général de l'Institut National de Santé Publique, INSP en sigle. Bonsoir Dr Dieudonné Mwamba. Bonsoir Dr Dieudonné Mwamba. Et aussi en ligne, Dr Michel Mouvoudi, il est spécialiste en santé publique et expert principal en santé et chef de projet à la Banque mondiale. Il a participé activement à la gestion des 9 épidémies de la maladie à virus Ebola et de la pandémie de la COVID-19 en RDC dans l'équipe du professeur Jean-Jacques Mouyembe. Bonsoir Dr Michel Mouvoudi.
Bonsoir Dimaté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Café qui me suivent.
Et aussi en ligne, Pélé Kassouara Taïgomo, il est rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Bonsoir honorable Pélé Kassouara Taïgomo.
Bonsoir monsieur Dimaté, bonsoir aux nombreux auditeurs de la radio Café.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Continuez à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, la 17e vague de la maladie à virus d'Ebola qui sévit en RDC depuis bientôt 20 jours multiplie des signaux positifs depuis 2 jours. Un premier guéri de cette pathologie a été signalé le week-end et depuis dimanche, 4 malades soignés au centre médical évangélique de Bounia ont aussi été déclarés guéris par les experts de ce centre. Mais comment évolue cette épidémie 17 jours après sa déclaration? Réponse dans cet entretien entre Martial Kizabiamungu et Benjamin Mudumbi.
Bonsoir Martial.
Bonsoir Benjamin Mudumbi.
Martial, dites-nous quelle est la situation actuelle de l'épidémie d'Ebola en Ituri.
L'épidémie d'Ebola dans les 7 zones de santé affectées évolue, mais on note un certain espoir car malgré la montée du cas suspect et confirmé, le gouvernement congolais, appuyé par ses partenaires dont l'OMS, a déployé à Ituri des dizaines de tonnes de matériel de riposte contre l'épidémie d'Ebola, ce qui justifie le séjour à Bounia la semaine dernière d'une délégation conduite par le ministre de la Santé publique Roger Kamba. Au nom du gouvernement, le ministre a rassuré quant à la prise en charge de tous les malades d'Ebola qui sont sous traitement dans toutes les zones affectées par cette maladie. Il s'agit notamment des malades ou cas suspects internés au centre hospitalier de Nyakoundé à 48 km au sud de Bounia dans les territoires du Rumu, mais aussi de ceux du centre de traitement et d'isolement de Rompara et de Bounia.
Martial, nous apprenons, malgré la montée des chiffres, que des malades ont été déclarés guéris d'Ebola.
Tout à fait Benjamin, 4 nouveaux malades d'Ebola qui suivaient des soins au centre médical évangélique Sémé de Bounia ont été déclarés guéris. Ils ont été présentés à la presse dimanche. Selon les responsables de cette structure sanitaire, les patients ont bénéficié d'un traitement symptomique qui a permis leur rétablissement. Toutes les personnes guéries sont des infirmiers, dont une femme qui travaille au centre médical évangélique Sémé de Bounia. Elles ont attrapé détecter les virus d'Ebola à plein exercice de leur métier. Selon le médecin directeur de cette structure médicale, le docteur Calvin Abitapio, ces survivants ont été soumis à un traitement des symptômes de la malaria, couplé des antibiotiques, entre autres. Il ajoute, après quelques jours d'observation et de prélèvements quotidiens, le dernier contrôle et les résultats ont été déclarés négatifs. Un ouf de soulagement pour le docteur Calvin Abitapio qui dit, je cite, « Nous sommes très contents de voir qu'une maladie qui n'a ni traitement propre ni vaccin pour le moment peut être vaincue par un traitement symptomique. » Fin de citation.
Et par rapport à ça, comment l'opinion réagit-elle face à ces cas guéris d'Ebola?
Notez par ailleurs, Benjamin, que la coordination de la société civile et les confessions religieuses ont appelé au soutien total de la population au consortium des malades d'Ebola dans les zones affectées par cette épidémie. Ces forces vives de l'Ituri saluent la guérison d'au moins 5 malades d'Ebola dans les zones de santé de Bounia et Rampara. La société civile locale insiste cependant sur les renforcements de la sensibilisation de la population à la prise de conscience face à la réalité de cette maladie mortelle. Même son des cloches du côté des confessions religieuses qui estiment que ces guérisons renforcent le climat de confiance entre la population et les personnels médicaux, mais aussi du courage, les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux au sujet d'Ebola. Benjamin, pour terminer, des activistes des droits humains et acteurs sociopolitiques encouragent les survivants d'Ebola d'être des moteurs de sensibilisation dans la riposte contre cette maladie dans leur communauté.
Merci beaucoup Martial Kizabiamungu et bonne soirée à Bounia en Ituri.
Merci et bonne soirée à tous les auditeurs et auditrices de Radio Okapi.
Merci à vous deux, Martial Kizabiamungu et Benjamin Mudumbi. Docteur Dieudonné Mwamba, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Bonsoir docteur, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut National de Santé Publique, INSP en sigle. Qu'est-ce qui peut expliquer cette évolution quand on suit les reportages que viennent de nous proposer nos collègues? On sent qu'il y a une certaine évolution sur le terrain. Qu'est-ce qui peut expliquer cette évolution, docteur Dieudonné Mwamba?
Oui, effectivement, je me trouve ici à Bounia, sur le terrain, à l'épicentre de cette épidémie. L'évolution qui se manifeste avec hier déjà la sortie de 4 autres guéris du centre de traitement Ebola, le centre médical évangélique, montre que quand nous avons une prise en charge précoce, nous pouvons arriver à des bons résultats à la guérison. Parce que les 4 guéris que nous avons déchargés hier, c'était le personnel soignant, qui se sont bien sûr, qui ont été contaminés, mais dont la prise en charge a été rapide et qui a été, ils ont été compliants au traitement, ils ont suivi le traitement qui a été donné, qui leur a été administré, et malgré que on n'a pas un traitement spécifique, mais on a pu arriver à bout avec un traitement de soutien. Donc ceci montre qu'il y a de l'espoir et que si les efforts sont conjugués, nous pourrons arriver à contrôler rapidement cette épidémie.
Docteur Dieudonné Mwamba, il a été dit que ce sont les antibiotiques et un traitement contre la malaria qui ont été administrés à ces malades. Comment vous expliquez qu'un virus soit vaincu par des antibiotiques ainsi qu'un traitement anti-malaria?
Non, vous savez que par rapport à la souche que nous avons cette fois-ci, la souche Boudibudio, pour laquelle nous n'avons pas encore, il n'y a pas un traitement spécifique, ni le vaccin. Donc c'est un traitement de soutien que nous apportons à nos patients. Donc si le patient a présenté de la fièvre, des diarrhées, des vomissements, c'est ce traitement symptomatique de soutien qui permet vraiment à l'organisme combattre lui-même le virus en donnant ce traitement que nous donnons, que nous appelons traitement de soutien. Ça permet aux malades atteints du virus Ebola de lui-même constituer de par son immunité et de vaincre le virus dans son organisme. Donc c'est par ce mécanisme-là qu'on arrive à obtenir la guérison de nos patients.
Et donc, ces traitements renforcent les systèmes immunitaires et c'est ce qui explique que l'organisme puisse arriver, n'est-ce pas, à vaincre les virus.
Absolument.
Voilà. Et comment est organisé, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent, hein, comment est organisé la réintégration des personnes guéries, ces personnes qui viennent d'être guéries, comment leur réintégration au sein de la société est-elle organisée?
Oui, déjà par exemple pour nos quatre guéris d'hier, nous leur émettons un certificat de guérison, déjà pour montrer dans la communauté qu'ils ont été déchargés avec un certificat qui témoigne de leur guérison, qui n'ont plus le virus de la maladie, le virus Ebola. Donc ça déjà, c'est un signe qui permet à ce que dans la communauté, ils puissent être reconnus et acceptés et admis. Autre chose, c'est qu'ils témoignent de déchargés, les guéris, d'hier, par exemple, ils ont témoigné même devant la communauté comment ils ont été pris en charge, comment ils se sentaient qu'ils étaient vraiment guéris, en bonne forme. Ça permet à ce que toute la communauté puisse voir qu'ils étaient en isolement au centre de traitement et que par leur témoignage et par le certificat que nous leur émettons qui permet qu'ils soient vraiment acceptés et réinsérés dans la communauté. Et nous avons aussi nos équipes psychosociales qui les accompagnent dans leur communauté pour les présenter et les faciliter leur insertion dans les communautés.
Et faut-il attendre combien de jours pour que les personnes guéries ne soient plus susceptibles de propager la maladie, docteur?
Bon, en principe, on sait que les personnes guéris, bien qu'ils soient guéris, ils peuvent garder encore le virus dans certains liquides séminales. Et ça, nous leur demandons, par exemple, pour ceux de sexe masculin, d'avoir, s'ils veulent avoir des rapports sexuels, d'utiliser des préservatifs pendant au moins 3 mois pour éviter une contamination parce que le virus persiste encore dans certains liquides, notamment dans les spermes ou dans le lait maternel. Et ce sont ces conseils quand même que nous donnons à nos guéris et lors de la décharge, nous leur conseillons d'observer ces mesures.
Docteur, est-ce que vous avez pensé à un scénario où lorsqu'ils apprennent que les personnes guéries ont été soignées par des antibiotiques et un traitement anti-malaria, que ces personnes-là puissent, n'est-ce pas, essayer d'utiliser l'automédication, c'est-à-dire que les personnes refusent d'aller à l'hôpital et ils essaient de faire l'automédication à la maison en allant, n'est-ce pas, dans différentes pharmacies pour acheter les produits contre la malaria, pour acheter les antibiotiques et eux-mêmes commencent à s'administrer ces produits-là à la maison. Vous ne craignez pas cette éventualité, docteur Dieudonné Mwamba?
Oui, effectivement, nous ne demandons pas aux malades d'aller eux-mêmes acheter des antibiotiques ou des antipaludéens dans les pharmacies. Non, ce n'est pas cela que... Au contraire, nous demandons, c'est que dès que quelqu'un voit qu'il a les symptômes de la maladie, notamment la fièvre, les céphalées, courbatures avec diarrhée, vomissement et fatigue intense, c'est d'aller rapidement au centre de santé le plus proche où il sera orienté vers les centres de traitement Ebola. Et on ne dit pas que le traitement, c'est prendre des antipaludéens. C'est au centre de traitement qu'on va évaluer, voir quels sont les symptômes que vous présentez, quel est le traitement adéquat qu'on va vous administrer. Donc, ce n'est pas une façon d'appeler la population à aller s'automédiquer. Non, pas du tout. Au contraire, nous leur demandons, les invitons, à ceux qui présentent les symptômes, les malades, d'aller rapidement au centre de santé le plus proche où ils seront pris en charge. Et d'éviter d'aller par eux-mêmes au niveau des formations, des pharmacies pour acheter des médicaments parce que vous ne savez pas les effets, parce que vous n'êtes pas médecin ni infirmier, quels sont les effets secondaires que ces médicaments peuvent produire dans votre organisme. Donc nous déconseillons fortement cela et recommandons par contre d'aller rapidement au centre de santé le plus proche.
Les villes de Goma et Bukavu sont également affectées par cette maladie, hein, avec quelques cas qui ont été enregistrés dans ces deux villes. Docteur Dieudonné Mwamba, c'est vrai que le gouvernement congolais ne contrôle pas cette ville-là, c'est une ville qui est occupée par la rébellion. Mais est-ce que vous savez comment évolue la maladie dans ces deux villes, Goma et Bukavu?
Oui, nous avons des informations. Que nous savons qu'il y a quelques cas au niveau du Nord Kivu. Et jusque-là, par exemple, au sud Kivu, on a jusque-là un seul cas confirmé. Et au nord Kivu, il y a déjà une dizaine de cas confirmés qui sont là. Donc nous avons des informations de comment évolue aussi la maladie dans les deux autres provinces.
Et est-ce qu'on a réussi à contenir aussi l'évolution de la maladie à Goma comme à Bukavu?
Bon, contenir, je ne suis pas sur place, je ne saurais pas vous donner des précisions quant à ce que si la maladie est contenue, parce que c'est une partie où on n'a pas, nos équipes n'ont pas accès au niveau de Goma ni de Bukavu, donc j'aurais du mal à vous donner ces précisions ce que en termes de contention de la maladie dans cette partie.
Merci beaucoup, Dieudonné Mwamba. Nous vous gardons encore dans cette émission. Docteur Michel Mouvoudi, vous êtes spécialiste en santé publique, expert principal en santé et chef des projets à la Banque mondiale. Vous avez participé activement à la gestion des neuf épidémies de la maladie à virus Ebola et de la pandémie de la COVID-19 en RDC dans l'équipe du professeur Jean-Jacques Muyembe. Et pour vous également, qu'est-ce qui peut expliquer cette évolution de la maladie avec ces personnes déclarées comme étant guéries?
Merci beaucoup, Monsieur Guimaté. J'aimerais de prime abord saluer le DG, le directeur général de l'INSP, Docteur Dieudonné Mwamba, et vraiment mettre en exergue les efforts louables qu'il est en train de mettre en œuvre sur le terrain à la faveur des populations affectées en ce temps. Et corroborer justement ce qu'il venait de dire, c'est qu'en fait, lorsque nous avons mis en place les mécanismes de contention et de la cassure de la chaîne de transmission. Il vous l'a expliqué très clairement ce que la prise en charge est un noyau, est un levier très important. Et donc, par rapport à cela, comme vous l'avez remarqué, justement, en faisant une prise en charge précoce, on arrive à éviter les complications de la maladie à virus Ebola, et donc on arrive à sauver les personnes infectées de la mort. Donc une prise en charge prompte expliquerait justement cette évolution bonne de certaines personnes infectées. Mais j'aimerais juste aussi sur ce point mettre un accent sur le fait que outre les avancées que nous constatons sur la prise en charge, il est capital de mettre le focus sur la prévention. Donc on insiste beaucoup sur la prévention, M. Guimaté. Donc à la réunion passée, j'étais avec le directeur général de CDC Africa, j'avais insisté sur le fait que le curseur dans cette épidémie doit être placé en amont, ça veut dire éviter la chaîne de transmission, en commençant d'abord par le fait qu'il faut renforcer cette surveillance à base communautaire afin que nous ayons assez tôt les alertes. Et lorsque nous avons les alertes, on les investigue. Ça permet justement déjà autour, n'est-ce pas, de ces alertes, savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, toutes les mesures qui ont été justement publiées, vulgarisées par le gouvernement à travers les canaux de communication sur les questions de prévention, ces mesures restent d'application. Donc notamment ce qu'on a, on a dit, et je reviens sur le fait qu'il fallait surtout se baser sur l'hygiène de main, l'hygiène alimentaire et autres. Et je crois que ça reste le pilier le plus fondamental. Parce que au plus on aura une prévention, au plus on aura des actions en amont, moins on aura des cas malades. Ça veut dire, en d'autres termes, on va avoir moins de décès et nous allons concentrer justement la prise en charge sur des cas critiques. Ça, c'est très important parce que en déchargeant les centres de traitement, ben justement, nous arrivons à dégager aussi la charge du personnel de santé pour s'occuper, n'est-ce pas, de la surveillance, principalement ici, la surveillance à base communautaire. Ça, c'est un élément important. Un autre élément, je voudrais terminer par là, c'est ne pas oublier qu'en fait, nous sommes dans une région où on a connu justement un tel phénomène vers les années 2018, hein. On parle de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola. Je crois que la population garde encore des souvenirs, garde encore des échos de ce qui s'était passé. C'est là justement, encore une fois de plus, l'idée d'appeler ces populations à l'engagement. Donc nous devons travailler avec ces populations, on ne cesse de le dire. L'engagement communautaire reste le socle le plus important. Et ensemble avec les prestataires, je crois que les communautés peuvent arriver à mettre fin à la propagation de la maladie à virus Ebola. Donc pour terminer, M. Guimaté, nous devons vraiment concentrer nos efforts sur la prise en charge. Donc ce qu'on vient d'avoir, c'est une embellie de la situation et il faut continuer à maintenir cette allure par une prise en charge précoce, comme venait de dire le directeur général de l'INSP. Mais d'autre part, je crois qu'il faudra encore beaucoup travailler sur la prévention. Et là, lorsque je parle de la prévention, j'en appelle à la surveillance à base communautaire, j'en appelle au renforcement de la communication pour les changements de comportement et faire en sorte aussi qu'on puisse rencontrer ces populations qui ont des questions afin que le partenariat entre la communauté et les prestataires des services soit renforcé, que les actes, par exemple, de résistance qu'on a vus puissent aller en diminuant. Voilà un peu à ce stade ce que je peux dire et en nous mettant en évidence que le chemin reste encore très long et je salue les efforts collectifs qui sont menés à la fois au niveau stratégique mais aussi au niveau opérationnel.
Le chemin reste encore très long comme vous le dites docteur Michel Mouvoudi, mais la guérison de ces personnes peut aussi signifier que la maladie est en train d'être contrôlée, d'être contenue, on peut le dire ainsi?
Je pense qu'il y a, trois volets dans ce signal. D'abord, le premier volet, monsieur Guimaté, c'est déjà le retentissement psychologique. Vous savez, lorsque vous êtes dans une situation d'un phénomène avec un virus très peu connu et que vous avez des cas de guérison, alors mettez-vous déjà à la place des populations affectées, c'est déjà un espoir. Vous savez, c'est déjà montré qu'on peut guérir de cette maladie. Et je crois que là, c'est pour les populations un signal d'espoir, un signal que, voilà, demain, nous pouvons nous en sortir. N'oubliez pas que la dimension psychologique est capitale en santé. Et pour moi, c'est déjà une consolation pour ces populations affectées. La deuxième dimension, c'est, vous regardez le nombre de guéris hein, versus le nombre de malades. Vous allez vous rendre compte encore que la proportion est infime. Mais c'est pourquoi il ne faut pas qu'on croise les bras devant cette situation et qu'on puisse, encore une fois de plus, conjuguer beaucoup d'efforts. Et j'insiste ici, l'essentiel de l'action, c'est faire en sorte qu'il y ait moins de malades. Parce que quand vous êtes malade, les chances de guérison sont infimes. Très peu de malades guérissent, donc du coup, nous devons nous mettre vraiment en amont. C'est là, justement, que j'ai mis en exergue la pertinence de mettre tout sur la prévention, la pertinence de mettre tout sur le début du phénomène déjà au niveau communautaire. Ça, c'est très important. Et troisièmement, moi je crois très bien que, comme le directeur venait de le dire, le directeur général de l'INSP venait de le dire, c'est qu'il faudra justement partir de ces cas guéris pour approfondir les raisons, n'est-ce pas, de cette guérison, n'est-ce pas? Ben oui, les raisons peuvent être épidémiologiques, les raisons peuvent être aussi de croisement de phénomènes, mais aussi il faudra suivre ces guéris pour se rassurer que justement c'est des personnes qui ne peuvent plus continuer à contaminer parce qu'on a eu des cas comme ça, mais aussi essayer de documenter davantage cette guérison pour que cette guérison soit réellement une guérison qui peut profiter aux outils, aux instruments que nous mettrons en place pour la suite. Ça, c'est pour moi un élément très important, mais c'est une lueur d'espoir. Mais encore une fois de plus, nous devons conjuguer davantage d'efforts. Et j'insiste encore une fois de plus, autant on a des guérisons, c'est très bien, mais faisons en sorte qu'il y ait moins de malades. Et pour faire en sorte qu'il y ait moins de malades, il faut travailler sur la prévention, notamment par l'engagement communautaire sur les mesures barrières, mais aussi sur la détection rapide des cas ou le tracking précoce des alertes afin de s'assurer qu'une fois qu'on a une suspicion, qu'on puisse l'investiguer et si c'est vraiment un cas qui est malade, ben, qu'on puisse l'isoler des autres pour justement casser, si vous voulez bien, la chaîne de transmission.
Oui, le docteur Jean-Jacques Mouyembe s'est exprimé, n'est-ce pas, dans actualité.cd, où il a souhaité que seuls les cas confirmés en laboratoire soient comptabilisés. Docteur Michel Mouvoudi, comment vous comprenez ces souhaits exprimés par le docteur Jean-Jacques Mouyembe?
Alors, il faut savoir que M. Guy Maté, très rapidement, pour ceux qui nous suivent, hein, je ne veux pas aller dans un développement plus scientifique, mais vous savez, il y a plusieurs maladies qui ont quasi les mêmes signes que la maladie à virus Ebola. Donc, vous avez les vomissements, vous avez la diarrhée, vous avez la fièvre, vous avez parfois certains signes hémorragiques dans beaucoup de maladies. La dysenterie amibienne fait cela, ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est quand on isole, n'est-ce pas, c'est quand on va au laboratoire qu'on sait vous dire qu'il s'agit ici bel et bien d'une maladie à virus Ebola. Donc la confirmation de la maladie à virus Ebola, c'est pas une confirmation par signe clinique, c'est par laboratoire. Et donc, dans le lot, n'est-ce pas, de tous ceux qui présentent les signes, vous pouvez avoir d'autres maladies. C'est pour cela que le professeur Jean-Jacques Mouyembe, et je pense que tous les médecins le savent, il faudra justement ne prendre que les cas confirmés au laboratoire, parce que là, justement, on a une évidence qui a l'élément viral. C'est très important. Et donc, à ce titre-là, on ne va pas faire de l'amalgame avec d'autres maladies qui ont les mêmes signes, et ça nous permet justement d'être focalisés sur les réels cas ou les réelles personnes infectées autour desquelles, justement, des actions idoines doivent être menées.
Merci, docteur Michel Mouvoudi. On vous garde encore dans cette émission. Pelé Kassouara Taïgomo, vous êtes rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Quelle est votre analyse de l'évolution de l'épidémie à virus Ebola en RDC et plus particulièrement en Ituri où vous êtes actuellement?
Nous saluons les co-débatteurs de ce soir. D'entrée de jeu, nous voulons présenter nos condoléances aux familles qui ont vu les leurs perdre des vies à cause de cette épidémie, et plus particulièrement au personnel soignant, parce qu'il y a au moins deux médecins et plusieurs infirmiers qui sont décédés. Il est important de réunir d'abord faire l'état des lieux de cette épidémie.
Monsieur Pelé Kassouara, votre ligne n'est pas claire, hein? La liaison n'est pas très bonne, non? Essayez de bouger un peu. Si vous êtes dans une maison, vous sortez de la maison, comme ça, ça peut améliorer la liaison. Allez-y.
Allô, là, vous me suivez?
Oui, ça va. Ça s'est amélioré. Allez-y.
Alors, je disais d'abord, je présente mes condoléances à toutes ces familles qui ont vu leur décédé suite à cette 17e épidémie de maladie à virus Ebola, et plus particulièrement les personnels soignants, les médecins et les infirmiers. Il est important de rappeler que c'est depuis les 15 que le gouvernement a déclaré officiellement, mais cette maladie a commencé bien trop tôt, avant même les 17, parce qu'à Bounia, on a constaté, ou à Mouyembe, on a constaté les décès de plusieurs personnes presque avec les mêmes symptômes. Et cela s'est justifié tantôt l'effet cercueil à Mongualou et d'autres, l'administration de produits toxiques. Aujourd'hui, à Mouyembe, on a 36 zones de santé. Il y a au moins 4 zones de santé, à savoir la zone de santé de Mongualou, de Bounia, de Rwampara et de Nyakoundé, il y a au moins des cas signalés de malades. La contamination, elle a eu beaucoup de temps. Jusqu'à présent, je pense que les personnes continuent à être contaminées. Plusieurs raisons. Il y a la résistance de certaines personnes, les croyances de personnes qui ne veulent pas croire que la maladie Ebola existe, et ça laisse les champs ouverts à la contamination. Aujourd'hui, nous avons au moins 23 malades au centre de Rwampara, près de 25 malades au centre de Nyakoundé, c'est le centre médical évangélique de Nyakoundé, et il y a 4 centres qui sont mis sur pied. De ces 4 centres, il y a celui de Mongualou qui est opérationnel, et celui de l'hôpital centre médical évangélique de Nyakoundé. Mais le centre de traitement de l'hôpital général de référence de Bounia et celui de Rwampara sont encore en construction. Et on va dire que le centre médical, déjà, le centre de traitement de l'hôpital Sémé est déjà saturé parce que la capacité d'accueil est faible. Cela est autant avec celui de Rwampara et même de l'hôpital général. En général, 4 guéris, si pas 5, avec celui de Rara, c'est très bon aussi. Mais le résultat, comme le docteur Michel venait de le dire, c'est insignifiant. Mais à côté de ces 4 guéris ou 5 guéris, on note quand même, après la sensibilisation, la prise de conscience de certains malades qui se rendent eux-mêmes à l'hôpital. Au final, par exemple, au centre de traitement des Rampara, on a au moins 3 à 4 malades qui s'y rendent d'eux-mêmes sans être contrés. Tel est le cas aussi au centre de traitement de l'hôpital général de référence de Bounia. Là, enfin, c'est un signe qui est encourageant parce que les gens commencent à prendre conscience qu'ils doivent se rendre à l'hôpital. Tant qu'on sera à l'hôpital...
Là vous parlez, honorable Pelé, vous parlez des personnes malades, oui. N'est-ce pas, qui commencent à prendre conscience quand ils voient les premiers signes de pouvoir aller à l'hôpital. Mais est-ce que c'est le même cas pour toute la population, même les gens qui ne sont pas encore malades? Est-ce que vous avez constaté que les gens commencent de plus en plus à s'impliquer dans la riposte, notamment en respectant, n'est-ce pas, les gestes barrières?
On doit noter, comme le docteur Michel venait de le dire, le chemin est encore long. Pourquoi? Parce que la prise de conscience n'est pas totale. Parce qu'il y a encore des résistances. On doit noter, par exemple, aujourd'hui, les jeunes gens ont vandalisé même le personnel qui s'était rendu vers un des centres au-delà de Rwampara. Ces personnels-là ont été maltraités. Ça veut dire que les gens ne croient pas encore à l'existence de cette maladie, de cette épidémie. C'est ce qui fait que ça donne encore l'occasion à la propagation ou à la contamination. Je disais que l'Ituri a 36 zones de santé. C'est sur 4 zones de santé qu'il y a le cas avéré. Mais on doit noter que la circulation entre la population, Bounia, Mahagi, Bounia, Aru, Bounia, Nyakunde, Mambata, donc du centre de ville de la ville de Bounia vers l'intérieur, il y a encore des circulations. Il y a de très fortes probabilités que des personnes qui s'y rendent puissent peut-être être déjà contaminées pour aller assurer la propagation de ces milieux-là. Je pense qu'il fallait aussi travailler sur cet aspect des choses. Le docteur Michel, je pense, venait dire, il faut, pour parler de calvaire, il faut le personnel, les cas réels. Ce qui fait qu'il y a un test qui doit être fait. Sur ce plan-là aussi, on doit déplorer. Certes, il y a des cas de laboratoires sont installés ici à Bounia, par-ci, par-là, mais on note, il y a le retard dans le rendu des résultats. Vous voyez, c'est un traitement aussi psychologique. Une personne qu'on a suspecté être malade, mais dont le résultat peut venir 3-4 jours après, ça traumatise les malades. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il fallait qu'on travaille encore. Les kits aussi pour la protection des personnels soignants. Il y a aussi une lourdeur entre la livraison et parce que chaque jour, on ne donne pas de kits assez suffisants. Moi, je pense que là aussi, il faut revoir le processus ou la procédure d'obtention des livraisons de ces kits vers le personnel soignant parce que on les donne à petite quantité, ce qui fait qu'il y a un sérieux problème.
Merci, honorable Pelé Kassouara Taïgomo. Nous vous gardons encore dans cette émission. Docteur Dieudonné Mwamba, vous allez réagir à la réflexion, parce que les auditeurs sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Beni au Nord Kivu.
Maître Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni au Nord Kivu. Nous pensons que les guérisons annoncées sont une bonne nouvelle dans le sens où chaque patient guéri représente un espoir pour les familles et pour la population. Donc nous saluons le travail abattu par les personnels soignants qui interviennent souvent dans des conditions difficiles. Mais il faut éviter le triomphalisme parce qu'après plusieurs vagues d'Ebola dans notre pays, la population a le droit de poser des questions sérieuses sur la gestion des épidémies. Parce que lorsqu'on nous annonce des financements importants, des appuis internationaux et une riposte renforcée, la vraie question reste, quel impact concret sur le terrain? Comment ces moyens arrivent-ils réellement aux structures sanitaires et aux communautés? Comment assurer, n'est-ce pas, une riposte efficace dans des zones marquées par l'insécurité ou difficile d'accès comme Goma? Nous pensons également qu'il faut renforcer aussi l'implication communautaire parce que une population bien informée collabore davantage qu'une population qui doute encore de la présence de l'épidémie.
Docteur Dédé Mwamba.
Oui, merci. Je dis merci à Maître Fabrice qui vient d'intervenir. Effectivement, il a raison. On ne peut pas, nous, à ce stade, nous contenter de ou brandir un certain triomphalisme. Non, loin de là. Nous sommes parfaitement conscients que nous avons encore des efforts à fournir. Mais le signal quand même qui est donné avec cette guérison des personnels soignants, ça veut dire quand même que ça donne une lueur d'espoir. C'est que quand on montre quand même qu'on a des guérisons, c'est qu'il y a une lueur d'espoir, c'est que nous sommes des efforts en train d'être faits, et c'est ça qu'il faut, c'est un message aussi qui est donné à la communauté pour dire que on peut guérir de cette maladie. Donc ce n'est pas vraiment, moi en tant que personnel impliqué dans la riposte et un acteur de santé publique, c'est pas du tout du triomphalisme, mais c'est un signal d'espoir qui est donné à la communauté et même aux malades eux-mêmes pour dire que quand on a cette maladie, on peut guérir. Donc c'est, il faut le dire pour donner cet espoir-là. Et, mais loin de là que ça soit vraiment un triomphalisme.
Voilà. Et
l'autre comment... intervention et l'autre point de Maître Fabrice, il a parlé aussi de l'impact sur terrain, comment tous ces appuis devraient vraiment arriver à donner une réponse efficace. Effectivement, c'est pourquoi, contrairement même aux autres épidémies, pour cette épidémie, nous avons un maître mot, c'est une seule coordination, on a un seul budget et un seul plan. Donc c'est que c'est pour vraiment mettre à l'avant-plan la transparence et la redevabilité, de telle sorte que même tous les appuis internationaux qui arrivent, ils savent à quoi ça va servir. Donc tous nos partenaires qui apportent des contributions, parce que nous avons élaboré ensemble avec eux le plan de réponse à cette épidémie, et quand les ressources sont mobilisées, tout le monde sait qu'est-ce qui est mobilisé et à quoi va servir toutes ces ressources-là. Donc c'est vraiment de la redevabilité parce que nous travaillons comme un accord de manière collaborative avec nos partenaires et la partie gouvernementale. Donc nous mettons vraiment un accent sur cette redevabilité. C'est pourquoi nous avons un seul plan et une seule coordination et un seul budget. Et nous voyons justement ce que, à l'issue de l'épidémie, parce que les épidémies, ça devait être aussi des opportunités pour renforcer notre système de santé, pour renforcer l'engagement des communautés, pour travailler davantage avec nos communautés. Donc, c'est des occasions pour lesquelles c'est des situations de crise qui arrivent, mais nous devons profiter de ces opportunités, de ces crises, pour sortir de ces crises en renforçant notre système de santé et en travaillant davantage avec nos communautés. Voilà ce que je peux dire à Maître Fabrice, et peut-être assez rapidement à Maître l'honorable Pelé,
qui a parlé notamment, il a parlé notamment du retard, n'est-ce pas, dans la livraison des kits, voilà. Et aussi des résultats.
Oui, il a parlé justement du retard dans le rendu de résultats. Effectivement, en début de cette épidémie, on avait connu, parce que nous avions beaucoup de cas qui étaient prélevés, des échantillons, beaucoup d'échantillons qui étaient au laboratoire. Mais depuis le week-end dernier, nous avons renforcé les équipes de laboratoire. Nous avons eu beaucoup des intrants de laboratoire, notamment des machines pour diagnostiquer la maladie et des tests. Donc nous avons apuré tous les échantillons qui étaient en attente. Donc au moment où je vous parle, je suis à Bounia, donc on n'a plus des échantillons qui sont en attente. Donc tous les cas qui sont prélevés le même jour, les résultats sont donnés. Donc c'est des efforts qui sont faits. Donc on n'a plus du tout de retard dans le rendu de résultats, ce qui nous permettra même maintenant d'être encore beaucoup plus efficients dans la gestion de cette épidémie, dans la prise en charge des cas, parce que tous les jours nous savons dire qui est cas suspect et qui est positif, confirmé, et qui est négatif. Donc nous n'allons plus accumuler des échantillons. Pour ce qui est même de l'insuffisance des kits, parce qu'il a parlé aussi des kits et des intrants,
oui.
nous avons reçu plusieurs tonnes de kits et d'intrants qui sont arrivés, qui sont ici disponibles au niveau de Bounia, que ce soit de la part du gouvernement et de nos partenaires. Donc ces kits sont en train d'être distribués au niveau des formations sanitaires et des centres de prise en charge de traitement Ebola, parce que au début, on avait juste les kits qui étaient là, avaient été distribués directement dans les formations sanitaires, mais c'était justement en quantité insuffisante. Mais là, nous sommes encore en train de réapprovisionner tous les centres et les hôpitaux en kits et en équipements de protection.
Merci beaucoup, docteur Dieudonné Mwamba. Docteur Michel Mouvoudi, vous allez réagir aussi à la réflexion de l'auditeur qui appelle, qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Olumbo Lopindo Bavis depuis la ville de Kisangani dans la Tchopo. Les 5 guérisons en 72 heures à Bounia marquent l'entrée dans la phase des contrôles cliniques. Avec prise en charge précoce, la létalité d'Ebola chute car on agit avec la défaillance multiviscérale. Épidémiologiquement, on vise le passage de la surveillance plus labo plus isolement rapide qui finalement réduiront la durée des contagiosités. Mais les mesures barrières ont un revers, elles stoppent Ebola, mais génère une morbidité indirecte. Rupture des soins de routine, stigmatisation des contacts, le virus recule. Aussi bien, la défaillance ne doit pas prendre sa place. Au-delà des chiffres de guérison, comment garantir que les mesures barrières protègent contre Ebola sans créer une autre crise sanitaire par rupture des soins de base et perte de confiance des communautés?
Docteur Michel Mouvoudi.
Monsieur Guy, je suis désolé, je n'ai pas du tout suivi l'intervention de notre auditeur. Est-ce que vous pouvez résumer sa question? La ligne était carrément silencieuse.
Voilà, il dit les 5 guérisons à 72 heures à Bounia marquent l'entrée dans la phase des contrôles cliniques avec prise en charge précoce. La létalité d'Ebola chute car on agit avant la défaillance multiviscérale. Épidémiologiquement, on vise les passages de la surveillance plus labo plus isolement rapide qui finalement réduiront la durée des contagiosités. L'appui des États-Unis des 162 millions accélère ses leviers. Il dit, mais les mesures barrières ont un revers. Elles stoppent Ebola, mais génèrent une morbidité indirecte, rupture des soins des routines, stigmatisation des contacts, blocage économique à Bounia. Voilà, il dit, les virus reculent, la défiance ne doit pas prendre sa place. Et au-delà des chiffres de guérison, comment garantir que les mesures barrières protègent contre Ebola sans créer une autre crise sanitaire par rupture des soins des bases et perte de confiance des communautés? C'est ça sa réaction.
Merci beaucoup, M. Guy. Donc, je reviens à ce que j'avais dit. Hein. Merci pour le relais. Trois dimensions dans ce que je viens d'entendre de votre part en relais de ce que notre auditeur venait de dire. Primo, c'est que d'abord, il faut mettre en tête que la réponse Ebola, c'est une réponse multisectorielle. Je suis convaincu que les questions d'économie, les questions de transport, les questions de sécurité, les questions d'eau, de communication, toutes ces questions traitées par d'autres secteurs, n'est-ce pas, sont à mettre devant. Donc très important de ne jamais oublier que la lutte contre la maladie virus Ebola, nous l'avons démontré depuis la nuit de temps, toute lutte réussie contre la maladie virus Ebola est une lutte multisectorielle, très important. Et donc ça c'est capital. Secundo, c'est qu'il faudra se mettre en évidence qu'on ne faut pas faire des liens comme ça en disant voilà parce qu'il y a eu ceci, ça veut dire qu'il y a eu de l'argent qu'on a donné, c'est comme ça que ça a coupé. Non, je crois que nous devons, tout à l'heure lorsque nous discutions, on a évoqué des hypothèses et ce qui vient d'arriver c'est un pas vers l'avant, mais nous avons encore du travail à faire, nous avons encore beaucoup plus du travail à faire dans sur des questions de prévention. J'insiste là-dessus. Il a mentionné un peu de manière assez brodée. C'est très capital de s'assurer que, oui, d'une part, on est en train de guérir, on voit qu'il y a des guérisons, mais de l'autre part, il faudra diminuer la charge morbidique, donc la charge des malades. Ça veut dire, et pour y arriver, il faudra faire en sorte que l'on commence à très rapidement engager la communauté dans des comportements qui cassent la chaîne de transmission. J'en ai parlé, je ne veux pas revenir là-dessus. Tertio, je crois que c'est clair. Si nous avons peu de malades dans des centres de prise en charge, cela permet justement d'abord de diminuer le coût hein, de la riposte, parce qu'il faut avouer que la prise en charge coûte plus cher que la prévention. On dit toujours vaut mieux prévenir que guérir, et donc j'insiste sur le fait que ce qui vient de commencer devra continuer, mais pour que ça continue, nous devons davantage accentuer, n'est-ce pas, notre couverture en termes de prise en charge, c'est très important, mais aussi, n'oubliez pas que nous avons encore des populations qui se déplacent des zones occupées vers des zones non occupées, vice-versa, que nous avons encore une fois de plus des zones enclavées où on ne peut pas y arriver. Ben, écoutez, toutes ces questions doivent être traitées dans une approche tout à fait holistique. Sinon, nous allons devoir réussir à gauche, mais alors que la situation est en train de s'empirer à droite. Donc, grosso modo, cher Guy, pour relayer ce qu'on vient de dire, c'est encore une fois s'inscrire dans une dynamique qui vise à ce que nous participions tous avec l'ensemble des piliers pour pouvoir mettre fin à la propagation de la maladie à virus Ebola. La prise en charge n'est qu'un pilier. J'insiste et je répète ici, la prise en charge n'est qu'un pilier. D'autres piliers existent et pour arriver à mettre fin à cette maladie, là, il faudra justement mettre autant d'accent sur les autres piliers comme le laboratoire, l'engagement communautaire, la surveillance et ainsi de suite. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons mettre fin et endiguer la propagation de la maladie à virus Ebola.
Merci docteur Michel Mouhoudi. Honorable Pélé Kassouara Taïgomo, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la province de Bazouélé.
J'avais Kasserenka depuis la province de Bazouélé. L'annonce de plusieurs guérisons en quelques jours témoigne de l'efficacité de la prise en charge assurée par les structures sanitaires et l'équipe médicale. Cependant, plusieurs défis persistent. Dans certaines zones, la sécurité, le déplacement de la population et la méfiance envers les autorités sanitaires compliquent les opérations de riposte. Par ailleurs, les risques de propagation demeurent tant que tous les cas contacts ne sont pas identifiés et suivis. Une personne infectée peut se déplacer d'un village à un autre, voire vers une autre province, avant d'être détectée par les services de santé. Comment le gouvernement compte-t-il assurer la sécurité des équipes médicales et humanitaires déployées par les zones de sécurité de l'Ituri-Nyon-Kivu? Quelles mesures sont envisagées pour garantir l'accès aux soins et au dépistage des populations déplacées par les conflits armés dans les régions touchées par l'Ebola?
Pélé Kassouara Taïgomo.
Oui, M. Guimapé, je note deux choses. Il parle de l'efficacité des soins parce que il y a au moins 4 ou 5 cas de guéris. On l'a dit, mais on doit, par rapport au décès, les 4 guéris, c'est encore insignifiant. Mais quand même, c'est encourageant, ça donne de l'espoir à la population, croire que même si on est atteint de cette maladie, le virus Ebola, la guérison est possible. Les risques de propagation, nous l'avons déjà dit, les risques demeurent très, 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 très élevés jusqu'à présent. Je l'ai dit parce que jusque-là, il y a 4 zones de santé dans lesquelles les cas avérés sont déclarés. Or, nous avons 36 zones de santé dans la province de l'Ituri, parce qu'il a parlé aussi du Nord Kivu. Certes, la province de l'Ituri est voisine à celle du Nord Kivu, où la circulation elle est régulière, les échanges entre les deux provinces, entre les plusieurs territoires. Ce qui est vrai est que on doit encore beaucoup travailler sur cet aspect des choses. Pourquoi? Parce que la propagation, d'ici le 15, sans être alarmiste, je pense qu'on risque d'enregistrer beaucoup de cas. Pourquoi? Parce que, je l'ai souligné au début, il y a encore la résistance. Quand bien même, il y a certaines personnes qui prennent des consciences, qui doivent se rendre à l'hôpital de même, mais il y a encore une bonne partie qui ne comprend pas. À ce niveau-là, on doit encore suffisamment travailler sur l'engagement communautaire, sur le respect des mesures barrières. Nous devons vraiment les respecter pour couper cette chaîne de propagation. Mais les risques demeurent jusque-là. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement de déployer l'équipe dans les 36 zones de santé. De telle sorte que lorsqu'un seul cas pourra être déclaré dans l'une ou l'autre zone de santé qui n'a pas encore connu ce cas-là, qu'on soit en mesure de prendre en charge ces cas pour ne pas être encore surpris. Si dans la zone de santé de Bounia, de Rwampara et de Mungwalou, on a été surpris. Il ne faut pas que dans les 32 autres zones de santé, que cette surprise arrive, pour autant que les échanges entre les différents villages ou les différentes centres de santé et les permanents. Même dans le Nord Kivu, c'est l'occasion de maintenant que dans la province du Nord Kivu, on ne puisse pas croiser les bras. Même dans les Hauts-Pyrénées, il ne faut pas qu'on croise les bras, on doit, donc la réponse doit être vraiment holistique dans tous les secteurs et même dans toutes les provinces qui avoisinantes de la province de l'Ituri. Pourquoi? Parce que les échanges entre la population et les certaines. Il n'y a pas moyen d'interdire une personne qui quitte le territoire de Mombasa ou qui quitte le territoire du Rouen ou du Zougou d'aller dans les Hauts-Pyrénées, dans les Bas-Pyrénées. Donc, le gouvernement doit être vraiment plus responsable à ce niveau-là.
Merci. Nous tendons vers la fin de la mission. Docteur Dieudonné Mwamba, est-ce que vous avez pu relever ces défis d'identification des cas contacts, parce que ça posait problème au début de la riposte? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, est-ce que vous avez un mot, parce que nous sommes à la fin de l'émission, hein, un message, n'est-ce pas, d'espoir à communiquer à la population congolaise?
Oui, en termes de relever le défi pour le suivi des contacts. Au début, effectivement, nous avions quelques difficultés pour déjà les lister, identifier tous les contacts et les suivre, parce que nous avions des taux assez faibles de suivi de contacts. Et les efforts sont en train d'être faits, parce que nous étions pratiquement autour de 20% il y a encore quelques jours dans le suivi de contacts, ce qui était vraiment très très faible. Et là, nous avons dû renforcer nos équipes et avoir aussi des relais communautaires qui sont connus dans les communautés pour améliorer ce suivi de contacts. Et au jour d'aujourd'hui, nous tournons autour de 43% de suivi de contacts, ce qui n'est pas encore optimal, mais ça montre déjà que des efforts sont en cours et qui doivent être poursuivis pour améliorer davantage le tracing, donc le listage des contacts ainsi que leur suivi. Parce que l'objectif pour arriver à contrôler l'épidémie, c'est vraiment arriver à rompre la chaîne de transmission. Parce que tant que nous aurons encore des malades dans la communauté et qu'on n'arrive pas à identifier et que d'amener au centre de traitement, donc nous aurons toujours la maladie qui va continuer à se répandre. Donc le travail de nos équipes, qui est un travail, on l'a dit, c'est vraiment une réponse multidisciplinaire, avec des équipes multidisciplinaires, c'est vraiment arriver à rompre la chaîne de transmission. Et c'est ainsi que pour comme message de la fin, c'est, on l'a dit par les différents invités, docteur Michel Mouvoudi notamment, c'est le message toujours de la prévention. Et ici, c'est rappeler les gestes barrières, les mesures d'hygiène. La population doit se laver régulièrement les mains à l'eau propre avec du savon, la cendre ou le gel hydroalcoolique, parce que c'est le virus, il est très fragile, et quand on se lave régulièrement les mains, on a moins de chances d'attraper ce virus. Et quand on a un malade, on soupçonne avoir des symptômes de la maladie, c'est éviter de le toucher, c'est éviter de manipuler les cadavres surtout, parce qu'ici on a vu qu'on manipule trop les cadavres, c'est éviter de manipuler des cadavres ou aussi de toucher des animaux morts ou de les dépiécer.
Merci docteur Dieudonné Mwamba. Docteur Michel Mouvoudi, un mot en guise de conclusion. Docteur Michel Mouvoudi, est-ce que vous êtes là? Honorable Pelé Kaswara Taïgomo, votre mot de la fin. Voilà, apparemment tous sont partis. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Docteur Dieudonné Mwamba, docteur Michel Mouvoudi et honorable Pelé Kaswara Taïgomo. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Dona Madimba et Benjamin Mudumbi qui l'ont réalisé. Merci aussi à Martial Kiza Biamungu qui a participé à la production de cette émission, et aussi à Pierre Diassinois et Alain Goy qui était à la technique, et Chembe Oloku qui a assuré le live de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite de programme sur Radio Capi.